Bonjour à tous et à tous sur FM+, 91 FM à Montpellier. C'est l'émission du journal régional protestant Cévennes Languedoc-Roussillon en compagnie du rédacteur en chef Nicolas Boutier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Guylaine.
Eh bien, merci d'être avec nous en studio, de reprendre le chemin des studios. On est toujours ravis, peu à peu les gens reviennent. On n'en pouvait plus des visios.
Ah, ça fait du bien de se voir en vrai, et d'avoir un micro et pas un ordinateur.
Un micro, voilà. Et franchement, les techniciens n'en pouvaient plus de ce son métallique de la visio.
Sachant qu'on n'a pas tous le matériel adéquat, oui. Le bon casque, le bon micro, donc ouais, ça ne donne pas des choses très intéressantes.
Ouais, donc non, franchement, c'est bien. La radio, c'est un média humain. Alors, un numéro du mois de novembre, dont le dossier concerne les maladies psychiques, mieux comprendre les maladies psychiques, on va y venir tranquillement en son temps. Et comme à notre habitude, Nicolas, on déroule. Et on commence par vos états d'âme. Déjà du mois de novembre, je sais que nous sommes le 16 novembre, 18 novembre. Je sais que vous êtes déjà dans les numéros suivants. Mais au mois de novembre, vous aviez des états d'âme.
Ça m'arrive. Alors, je dois avouer que c'est des états d'âme à la fois personnels et professionnels. Tout se mélange un peu, forcément. Sinon,
voilà,
ça serait pas rigolo.
C'est vous qui signez, voilà.
Non, c'est en fait, comme il y a eu le synode régional, là, ce rassemblement un peu politique, administratif, spirituel qu'organisent les protestants tous les ans. Il fallait que je me penche un peu sur, finalement, les 2 ans écoulés, les 2 dernières années, pour faire un peu le bilan de ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que le journal va pas si bien que ça. Et donc, ça entraîne des questions de savoir si les gens s'y intéressent, ont envie, n'ont pas envie, qu'est-ce qu'ils en font de ce journal. Est-ce qu'ils ont envie de le continuer ou est-ce qu'ils veulent l'arrêter? Et donc, c'est tout ça qui m'a un peu perturbé et qui a fait que j'ai un peu posé sur le papier mes états d'âme. Et finalement, ça fait du bien, parce que je peux donner le recul. J'ai eu des retours, en fait, plutôt positifs, d'encouragement pour continuer mon travail, bien sûr. Alors, jamais j'ai annoncé que je partais, mais voilà, des encouragements à ce que ça continue sur la qualité du journal. Donc, ça fait du bien, ça remotive. Je pense que de temps en temps, je ferai quelques piqûres de rappel.
C'est ça. Et oui, parce que c'est vrai qu'on a des échos au comité de rédaction que le journal plaît énormément. Et voilà, mais après, un journal doit vivre, on
c'est
le
ça.
Sait.
En fait, c'est ça. C'est que le changement de maquette, il y a maintenant presque 3 ans, a donné un coup de jeune au journal. La qualité des dossiers, des pages intérieures se sont améliorées. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer? Pas vraiment, mais bon, il y a eu du changement. Et donc, les lecteurs l'ont remarqué. Mais nos lecteurs traditionnels, ça n'a pas... ceux qui n'étaient pas intéressés par le journal avant ne le sont pas plus aujourd'hui, en particulier dans l'Église. Et c'est vrai qu'on est vendu sur abonnement ou à l'entrée des temples, c'est difficile de nous trouver en kiosque. Voilà. Donc, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes qui passent dans nos journaux et dont les gens n'ont pas connaissance. Et l'idée, c'est de retravailler complètement le site Internet pour que justement, dans les moteurs de recherche, on puisse peut-être nous retrouver et retrouver les articles qui pourraient intéresser plein de personnes, alors sans forcément s'abonner, mais peut-être acheter ponctuellement un article qui pourrait les intéresser, les passionner.
Donc voilà, c'est le d'autant que les dossiers sont particulièrement bien fouillés.
Et très belles plumes, alors pas forcément connues dans le monde civil, plutôt connus dans le monde protestant, mais des intellectuels de haute volée qui écrivent bien, qui sont compréhensibles. Donc voilà, il y a vraiment des dossiers intéressants, variés, et qui mériteraient d'être découverts en dehors du petit monde du protestantisme.
D'autant que dès la page 5, on a quand même un article, moi, qui m'a épaté. On va pouvoir faire dans nos églises protestantes un don avec sa carte bancaire. Alors là, c'est... Wow, vous touchez un sujet là, chaud chaud, l'argent, l'église, la foi,
c'est ça.
Le don,
oui, c'est vrai que
dématérialisé, c'est quelque
c'est
chose
très
quand même.
Particulier. Alors c'est au niveau national que ça a été mis en place et proposé aux églises locales. C'est une petite révolution parce que là, jusqu'à présent, le protestant qui donnait pendant le culte son offrande la donne dans une bourse où on ne voit pas ce qu'il
délicatement
fait.
Délicatement, plonge sa main
au fond. On ne sait pas s'il ressort pleine ou si elle rentre pleine. Donc ça, c'est pour la plaisanterie. Mais voilà, il y a quand même un rapport avec l'argent. Puis les protestants n'en parlent pas beaucoup. Même si aujourd'hui, quand on se retrouve dans un conseil presbytéral ou au conseil régional, une des questions majeures qui traversent l'Église, c'est l'argent. Comment va-t-on vivre? Comment va-t-on boucler notre budget? Comment fait-on pour arriver au bout de l'année? Et tout ça se répète d'année en année. Donc l'argent est une vraie question de fond, mais on n'en parle pas en public.
Par pudeur, voilà.
Ou avec beaucoup de pudeur. Là, le fait d'avoir un panier électronique où on va poser sa carte comme si on payait au péage de l'autoroute, c'est notre mentalité. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. Ça existe dans de très grosses paroisses. Où les gens, protestantes, oui. Où les gens n'ont pas forcément le temps, n'ont pas forcément l'argent sur eux.
Les chéquiers, on n'en parle même plus.
Voilà, c'est ça. Un des grands centres urbains où le réflexe, c'est la carte bleue. Et donc, à l'entrée du temple, il y a un serveur bancaire où on peut payer avec sa carte.
Et là,
donc,
à demeure. Le serveur,
il est à demeure. On peut payer tous les jours, si on veut. Bon, sauf que les temples ne sont pas toujours ouverts tous les jours.
Ce serait un beau motif d'ouverture.
Peut-être. Et donc, ce panier qui vient finalement remplacer le petit panier qu'on passe le dimanche permettrait, voilà, pour les gens qui ont... Ben, moi, je suis le premier à arriver au temple et au dernier moment de me dire « Mince, j'ai oublié d'avoir ma pièce ou mon billet au fond de ma poche. Mm-hmm. » Donc, la carte bancaire, pour moi, serait vraiment... Et en plus, je pense que ce n'est pas inintéressant parce que je me pose la question de savoir si les gens ne donneraient pas plus. En
mais
fait,
oui.
Parce que la pièce ou le billet bloque un peu, tandis que la carte bancaire, on peut...
Que ce soit 20 ou que ce soit 200,
oui,
c'est le même, c'est
pareil,
même geste.
Oui, c'est ça. Alors, je ne pensais pas tout à fait à ça, mais dans l'idée, pourquoi pas.
Ouais.
Mais on fait rentrer le modernisme. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas, mais c'est facilité, peut-être pour des populations un peu plus jeunes, leur faciliter le don et... c'est pas forcément avoir un billet au fond de sa poche, quoi, peut-être.
Oui.
Voilà. Donc, c'est affaire à suivre. Là.
Alors, c'est la société Actol qui propose ce service. Est-ce qu'il est payant ou gratuit pour les églises locales?
C'est une excellente question. Là, je ne suis pas tout à fait au courant sur ça. Il n'est pas impossible qu'il y ait que ce soit un principe comme SumUp. Alors, je pense que le panier en lui-même coûte...
Première à SumUp, voilà, c'est presque 30 euros une fois et après on ne paye plus.
Voilà, alors je pense que là, il
n'y
a aucun prélèvement.
Aucun.
Sur le...
aucun.
Mais je pense que
il y a un pourcentage qui est prélevé sur la somme
voilà. Donc, je pense
que le commerçant encaisse.
Ouais. Donc le panier aura un coût à l'achat et ensuite il y aura peut-être un petit pourcentage qui sera prélevé sur les dons. Mais finalement.
Voilà, au trésorier de faire le calcul si c'est rentable ou pas.
Exactement.
Voilà. Et vous dites bien que c'est un produit...
Français, madame.
C'est ça, 100% français.
100% français. Bon, nous verrons ce que ça donne. Est-ce que le panier est en plastique ou en osier? La question ne le dit pas.
C'est ça, mais en CLR, vous connaissez des églises qui en sont équipées?
Non, pas encore.
Aucune église n'est équipée.
Aucune. Mais CLR est une région de résistance. Alors, est-ce que le panier va arriver jusqu'ici dans l'année qui suit? Je n'en suis pas certain.
De résistance, mais aussi une région où on manque de pasteurs.
Et plus vraiment.
À Pau?
Ah, moi, je ne dirais pas que la région CLR manque de pasteurs. Il y a 2 ans de ça, il y a, je pense, une grosse crise de pasteurs. Mmh. Et là, les postes sont presque tous pourvus. On pourrait en rajouter quelques-uns. Mais pendant la synode, la question était posée. Est-ce que... Nous n'avons pas trop de pasteurs, même.
Ah.
Pour certains endroits où, quand il y a 20 personnes occultes, est-ce qu'un pasteur est utile pour 20 personnes occultes? Même s'il y a une communauté autour. Voilà, c'est bon, il y a des questions à se poser. Là, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts.
D'accord, on va s'arrêter là. Alors, j'avais envie... Bon, on a un tout petit peu parlé du synode qui concernait l'écologie. C'est Joël Geiser qui fait un petit... compte-rendu de ce qui s'est dit sur cet aspect-là. C'est peut-être pas tout à fait... Enfin, c'est en relation avec le synode, mais c'est aussi en relation avec la politique. Peut-être on s'y arrête pas plus que ça.
On peut, en fait. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que, en effet, le synode national de notre Église a réfléchi sur le sujet de l'écologie. Covid faisant, le sujet a pris un peu de retard et il a été finalisé là, au mois d'octobre. Cet article est assez intéressant puisqu'au même moment où le synode finalement sort son texte de référence, la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2022 démarre. Les écologistes ont été les premiers à prendre la parole. Et ce texte est un texte normalement pour les politiques, enfin pour le monde, en disant voilà ce que pense l'Église sur l'écologie et quelle est la vie qu'elle a et quelle... image elle veut donner aussi. Voilà. Et je me demande, en fait, maintenant, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire d'envoyer cela à tous les partis politiques qui se présentent, en disant « l'Église protestante unie a un message sur l'écologie, le voici ».
Et pourquoi ça,
Je ne sais pas quelle est la destinée du message. Est-ce qu'il va être publié dans un journal et puis voilà, je ne sais pas du tout quelle est la mission du message ensuite. Est-ce qu'il va sortir du cadre de l'Église et être un peu... gentiment, mais jeté sur la voie publique, pour que vraiment on se dise, ben, voilà, y a une
comme une sorte de lobbying, on pourrait dire, protestant.
Entre ça et puis on a un message à donner, on a aussi une vision protestante de l'écologie, une vision chrétienne, faisons-la connaître. Après, s'en saisit qui s'en saisit et entend celui qui veut, mais au moins ça sera fait, ça serait fait.
Nous continuons à dérouler et puis on arrive au dossier central sur lequel on va peut-être s'arrêter un petit moment juste après la virgule musicale de notre émission.
Vous écoutez Le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103.1 à Nîmes, une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Sur FM Plus 91 FM à Montpellier, tous les temps et tous les jours sur www.radiofmplus.org. Nous sommes en compagnie de Nicolas Boutier pour le numéro du mois de novembre du CEP. Et nous arrivons à ce dossier du mois de novembre, mieux comprendre les maladies psychiques. Vous aviez déjà fait un travail sur le handicap, Nicolas Boutier.
Il y a un an, pile, nous avions fait un dossier sur... En fait, on voulait faire un dossier sur le handicap, un peu en général. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était difficile de mélanger physique et psychique. Donc, on a décidé de faire deux dossiers. De construire notre premier dossier sur le handicap physique il y a un an et de revenir sur handicap et maladie psychique. C'est encore un dossier assez très différent du premier, en fait, parce que c'est deux mondes, deux réalités extrêmement différentes. Et le but du dossier, c'est vrai qu'on a donné comme titre « Mieux comprendre les maladies psychiques », mais c'est mieux accueillir aussi. C'est comment nous, en Église, comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, comment ça se vit, et comment ces personnes peuvent être mieux accueillies et comment nous pouvons les accueillir, les comprendre.
Autant c'est facile, enfin relativement facile de mettre en place une barre pour les personnes en situation de handicap physique, autant c'est facile d'aménager géographiquement un espace, de les mettre devant, d'équiper le temple de sonos adaptés. Autant la maladie psychique, c'est quand même une autre paire de manches. C'est une toute autre démarche, souvent de notre part.
En fait, il y a à la fois de l'ignorance, de la pudeur et de la gêne. Parce que je l'ai vécu, en fait, ça m'est arrivé une fois où il y avait un enfant, je pense, autiste, enfin, un jeune adulte, qui est venu avec ses parents au culte et qui, tout d'un coup, s'est mis à s'exprimer très fort et a beaucoup gesticulé. Et les parents sont sortis avec lui. Alors, je me doute qu'en effet, je n'aurais pas pu le prendre sous le bras et m'en occuper. Je ne sais pas faire, en fait. Et je ne le connais pas, donc c'est assez compliqué. Mais je me demandais jusqu'à quel point les parents avaient à sortir pendant le culte. Est-ce qu'on n'aurait pas pu supporter l'état dans lequel il était et continuer notre culte? Alors, ce n'est pas faire comme si de rien n'était, mais c'est peut-être apporter un mot d'apaisement aux parents, pour qu'ils puissent être plus sereins dans l'écoute et de leur dire, peut-être qu'il fallait qu'ils sortent quand même parce qu'il était énervé, je ne sais pas, mais voilà, essayer de les accompagner même pendant le culte, c'est-à-dire le pasteur à ce moment-là aurait pu interrompre, peut-être c'était pendant sa prédication, prendre 30 secondes pour apaiser tout le monde. Mais ça, c'est pas un reproche que je fais, c'est... On a été surpris, tout le monde a été confronté. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on devrait agir? Et finalement, par pudeur, gêne, on reste chacun sur son banc, on dit rien. Et les parents sont sortis et on les a revus qu'à la fin du culte, en fait. Donc, voilà. Mais ça, il y a les parents, il y a aussi le jeune, comment on l'accueille.
Peut-être ne sont-ils plus revenus?
Alors, c'était des gens qui étaient de passage. Je ne sais pas comment ça se passe pour eux, par exemple, dans leur paroisse. Ou s'ils vont au culte, voilà, on a des témoignages comme ça au fil du dossier, parce qu'il y a à la fois dans ce dossier il y a à la fois une partie
technique
en fait de définition des maladies psychiques, de comment on soigne le patient ou comment on l'accompagne, puis une définition parce que On parle d'handicap psychique, mais quand on discute avec des parents d'autistes, ce n'est pas un handicap, c'est une maladie. Ce n'est pas la même chose. Donc, toutes ces notions-là, il a fallu les remettre en place pour nous et puis pour nos lecteurs avant de pouvoir rentrer dans des témoignages. Mais ça va de la bipolarité à la schizophrénie, l'autisme, voilà, c'est plein de choses comme ça. Alors c'est vrai qu'on n'aborde pas non
qu'on
plus...
Qu'on ne perçoit pas tout de suite dans la personne qui est face à nous.
C'est ça, exactement. Il y en a certains, ça passe complètement inaperçu. Enfin, quand on voit la photo de Barthélemy Contreras le jour de son baptême, on voit un jeune homme tout à fait radieux et épanoui.
Absolument. D'ailleurs, en entendant votre anecdote sur ces parents qui doivent sortir avec leur enfant, on a le sentiment maintenant, en relisant ce témoignage de Bartholomé Contreras que vous avez interviewé, c'est comme si c'était une réponse aussi à ce qui s'était passé. Vous réparez quelque part votre ignorance, votre peut-être ce que vous aviez perçu comme une maladresse.
Mais je pense qu'il y a de ça. J'ai assez mal vécu ce qui s'est passé ce jour-là. Enfin, mal vécu. Je me suis dit, mais on est une église, on devrait accueillir inconditionnellement. Et là, on a raté notre mission. Ce jour-là, on a raté notre mission. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai qu'en interviewant sa mère, qui elle-même est autiste, mais plutôt Asperger. Donc, voilà, elle peut s'exprimer. Elle est mariée. Voilà. Donc, la relation était facile. C'est les questions. En fait, je pense que mes questions étaient un peu peut-être orientées. Ouais. Merci. Entre les questions que je pouvais me poser moi-même par rapport à ce que j'avais vécu, puis bon, quand même découvrir. Parce que finalement, on découvre que son fils a un parcours dans l'Église un peu en parallèle, parce que c'est difficile de gérer parfois ses crises. Mmh. Il a beaucoup de mal à parler, à s'exprimer. Tout le monde ne le comprend pas. Donc, bon, mais voilà, il n'est pas forcément aux séances, mais il a quand même été baptisé, ou il a demandé le baptême à l'âge de 15 ans, donc c'est pas rien, en créant un lien très particulier avec la pasteur qui l'a accompagné, et il a pu aller quand même dans des groupes de jeunes de l'église. Donc voilà, il y a peut-être des choses, des rendez-vous réguliers qui sont un peu compliqués, mais d'autres rendez-vous plus exceptionnels que l'on peut faciliter. Et voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant de découvrir dans ce dossier.
Absolument. Alors là, on parle de justement Bartholomé Contreras, qui est dans une église, on va dire, classique, que nous connaissons tous. Il y a, on le sait, des établissements qui sont plus orientés vers le handicap psychique. Vous avez l'aumônier à la Fondation John Bost, Christian Appel, qui parle d'accompagnement spirituel pour ces personnes-là. Donc, qui sont vraiment là, encadrés, tout tourne autour d'eux, tout est fait pour ces personnes qui sont dans des situations de handicap ou, comme on l'a dit, de maladie.
Oui, c'est vrai que sur la Fondation, alors c'est l'institution protestante par excellence pour le handicap. Il y a deux articles, il y a cet article de Christian Appel et puis juste derrière, il y a un témoignage de ma vie à Béthany qui est une branche
très
de...
Très fort aussi, hein. Oui. Très intéressant ce témoignage.
Qui est une branche de la Fondation John Bost. Et c'est vrai que on est sur une personne qui a mis beaucoup de temps à comprendre ce qui n'allait pas. Puis finalement, sa famille a pris la décision de la mettre en institution. Puis on se rend compte que finalement, l'institution lui apporte un certain apaisement,
très
une certaine
apaisée,
paix.
Cette femme. Ouais.
Alors je suppose qu'elle doit avoir des moments de crise aussi. Mais c'est assez. Je ne sais pas comment dire, mais c'est le genre de témoignages qui font du bien. On se dit que voilà, elle est accompagnée, elle vit une vie sereine et épanouie avec des initiatives qu'elle peut
très
prendre.
Artistique.
Très artistiques. Très artistiques, oui. Mais ça, je pense que c'est de famille.
Emmanuel Lalanne. Alors, le petit article de Daniel Marguera, je ne sais pas il fait combien de signes, mais il est très court, mais il est percutant parce qu'il fait le lien, Daniel Marguera, à partir d'un texte biblique, c'est sur le troupeau de porcs qui se jette d'une falaise et se noie. Il en fait, lui, il lui en donne une dimension politique. Alors ça, c'est troublant, c'est revigorant, je trouve. Et vraiment, quoi, on ne peut pas détacher cette situation individuelle de l'environnement politique. Bah. Ce petit article-là, c'est un bijou.
Bah, en même temps, c'est Daniel Marguera. Donc, il y a une signature, là, pour le coup. Et il y a une écriture qui est ciselée.
C'est tout à fait.
Mais oui, c'est, voilà, ça fait partie de ce genre d'articles où on peut. Qui mérite d'être découvert dans nos journaux, parce qu'on apporte un éclairage nouveau, et puis avec une ouverture d'esprit et sur le monde qui est souvent plutôt intéressante.
Absolument. Donc un dossier vraiment qui n'est pas banal. Voilà, mieux comprendre les maladies psychiques, c'est dans le mois de novembre du journal Le CEP. Alors après, on va picorer. Hein. J'ai beaucoup apprécié l'article de Karine Michel, mon amie pas croyante, dans cette nouvelle série qui commence, Figure spirituelle. Voilà, vous appelez les lecteurs à écrire sur ce qui a déclenché chez eux peut-être un chemin spirituel.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et alors, bon, au début, on avait un peu peur d'avoir des grandes figures, des grands théologiens qui ont transformé ma vie. Et puis, bon, voilà, l'auteur. Et là, c'est le premier, c'est le troisième. Mais ce qui était intéressant, justement, c'est qu'il n'y a pas la figure d'un théologien derrière. C'est l'ami pas croyante qui pose les bonnes questions au bon moment.
Et qui déclenche.
Et qui lui dit... Karine est d'origine catholique. Et puis, elle était un peu perdue. Elle ne savait pas très bien dans son église où était sa place. Et cette amie pas croyante lui dit,
Mais qu'est-ce que t'attends, va
chez les protestants, tu verras, tu seras à ta place. Et bam, non seulement elle est arrivée chez les protestants, mais elle est en études de théologie.
Elle sera pasteur,
j'en suis quasiment sûr, et je lui souhaite. Et donc, c'est intéressant tout le chemin, la discussion, et puis elle, la réflexion qui se met en place.
C'est ça, et elle dit bien, cette amie n'est pas un modèle spirituel. Donc voilà, là, prenez vos plumes et racontez-nous votre chemin spirituel. On n'a pas forcément besoin d'une identité encadrée dans un mur, sur un mur.
C'est ça, c'est vraiment... qu'est-ce qui nous a déplacés? Alors, ça peut être un caillou sur le chemin. Je pense que son ami est plutôt un caillou sur le chemin, mais un bon caillou. Et je pense que ça peut être ça, en fait, qu'est-ce qui nous a un peu déplacé à un moment donné. Il faut savoir qu'avec cet article, va la prière, qui est en dernière de couverture, qui est donc aussi rédigée par, par Karine. Voilà, bon, c'est une jolie prière à découvrir. Enfin, tous les mois, il y a une prière différente. C'est pour le côté spirituel du journal.
Absolument, on n'oublie pas. Alors, moi, je me suis aussi un peu arrêtée à la page 33, la restauration du temple du Collet d'Odèse, par l'architecte et théologien Nicolas Westphal. Il en a fait un livre, hein, de cette restauration du temple, dont il évoque énormément, comment dire, le travail qui est fait, mais aussi il a le souci de laisser la trace de cette reconstitution d'un temple qui avait été peut-être pas abîmé, mais en tout cas camouflé. Et on avait camouflé une merveille.
C'est ça, en fait. Alors, il faut savoir que c'est un des temples les plus anciens de France, puisqu'il a été construit au XVIIe siècle. Il n'a pas été rasé en 1685. Et en 1787-1790, il est redevenu temple. Et au XIXe siècle, des travaux de rénovation ont... recouvert le sol d'un plancher. Et en fait, sous ce plancher, des analyses ont été faites, des analyses ont été faites, il y avait le sol d'origine du temple, donc du XVIIe siècle, qui est une merveilleuse calade, et avec des dessins à l'intérieur. Donc c'est là où intervient le travail du théologien et de l'architecte, qui réfléchit sur ces symboles qui sont faits, il réfléchit. Parce qu'il y a la place de la table, il y a la place de la parole, il y a donc la scène, la parole, la Bible. Donc est-ce que tous ces éléments sont juste décoratifs, ou est-ce qu'il y a une vocation spirituelle à les retrouver, enfin à les voir là? Et puis il manquait un bout de calade, donc qui a été reconstitué, mais qui a été reconstitué de manière visible. C'est-à-dire qu'on sait qu'au XXIe siècle, eh bien, on a rajouté un bout parce qu'il en manquait un sur celui du XVIIe. Et donc il y a aussi là toute la réflexion à la fois de l'architecte et du théologien, de savoir qu'est-ce qu'on met, comment on le fait et comment on l'installe. Je pense que le temple est classé monument historique, donc il y a aussi derrière tout cet aspect-là qu'il faut prendre en charge. Et donc de tout ça, il naît un livre, Le temple protestant du Collet d'Èze, comme l'or brille dans les torrents, par Nicolas Westphal aux éditions Olivetan.
Très intéressant, il avait fait un travail assez similaire sur le temple de Djibouti.
Exactement.
Qu'il avait carrément construit.
Construit, oui.
Ça avait duré bien 10 ans, du commencement de la réflexion jusqu'à sa réalisation. Il avait aussi laissé la trace de ses travaux.
C'est ça. Et il y a un autre exemple dans la région qui est le temple de Carcassonne. Le temple de Carcassonne, enfin la paroisse de Carcassonne a vendu son presbytère et il en manquait une salle finalement pour se réunir. Et Nicolas Westphal a proposé une salle suspendue dans le temple. C'est-à-dire que le temple, visuellement, au niveau du sol, n'est pas réduit, mais en hauteur, en effet, une partie de la voûte disparaît. Mais cette salle est amovible, c'est-à-dire que si un jour on décide de l'enlever, le temple retrouve toute son architecture ancienne. Donc c'est vraiment...
C'est
très ingénieux. Et je pense que cet exemple-là n'est pas utilisé. Il y a plein de paroisses qui pourraient l'utiliser en exemple. Il n'y a pas besoin de tout casser, en fait. On peut installer et intégrer des choses dans un lieu ancien. Et en le respectant, je pense que c'est la force de Nicolas Westphal, c'est qu'il a cette image... parce que le temple de Djibouti est un temple très contemporain, et en même temps, le temple du Collet d'Esc, qui est un des plus vieux temples de France. Et il arrive à jongler entre les deux en respectant l'ancien, mais en sachant apporter du moderne, en fait. Enfin, une idée plus moderne du lieu. Et voilà, je pense que là, le temple du Collet d'Esc, c'est un bel exemple de ce qui se fait. Et ce n'est qu'un début. On va en reparler, je pense, dans le CEP, dans les mois à venir.
Entendu. Est-ce que vous souhaiteriez annoncer d'autres informations qu'on n'a pas évoquées là dans les quelques minutes?
Il y a une petite série d'articles qui est apparue dans le CEP, qui a été proposée par Martine Fouchier de l'Ensemble des Terres du Milieu sur La Boîte, qui est en fait l'histoire d'un collège qui a été créé à Aigues-Vives, donc au sud de Nîmes à peu près. À l'ouest de Nîmes. Un collège qui a été créé par une femme de pasteur, qui était aussi poétesse. Et après la guerre, en fait, elle s'est rendue compte que les enfants avaient besoin d'aide. Et cette besoin d'aide aux enfants est arrivé la naissance de ce collège, qui a fonctionné des années 30 aux années 60, qui a accueilli de nombreuses personnalités, en fait, plus connues qu'on ne croit. Et donc là, on commence à découvrir les personnages principaux. Et le dernier article sera un peu justement sur la vie de ce collège et qui y est passé.
La boîte Histoire d'un collège, c'est le premier numéro, Georges Armengaud.
Voilà. On commence par monsieur. Le mois de décembre, c'est madame.
Très bien. Cette émission s'achève, Nicolas Boutier.
Et oui, ça y est, on a fait le tour du CEP. Non, je pense que non, nous avons fait le tour du CEP.
Nous avons beaucoup parlé autour, peut-être, beaucoup de cette boîte de cartes bancaires. Ça nous a pris du temps.
C'est vrai, c'est un événement.
C'est un événement. Merci encore, on se retrouve au mois de décembre pour le dernier numéro de l'année.
Tout à fait, on va faire ça.
On va faire ça.
Au revoir.